Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris et Kinshasa, 8h30 à Goma. Un dimanche plus apaisé, la RDC à la une de votre journal, Édouard Dupénoat.
Oui, le front du sud Kivu, province de l'est du pays, beaucoup plus silencieux. Hier, la diplomatie sous-régionale EAC-SADC s'active pour un cessez-le-feu. Le Rwanda se dit satisfait des conclusions du sommet conjoint de ce week-end. La diaspora congolaise vient clamer sa colère sous les fenêtres de l'Europe. Des assises nationales convoquées en fin de semaine au Niger. Des centaines de participants choisis par les militaires. Certains l'ont d'ailleurs appris en regardant la télévision. Ils devront plancher sur la suite et la fin peut-être de la transition ouverte par le coup d'État contre Mohamed Bazoum. L'US aide suspendue, ce n'est pas que la signature de Donald Trump au bas d'un parapheur. C'est une association dans le grand nord de la Côte d'Ivoire qui se bat depuis des années pour que les jeunes n'aient pas le sentiment d'être délaissés pour compte, ne soient pas tentés par le mirage de l'extrémisme violent, mais qui donc ne peut plus travailler, faute des fonds suffisants.
Et puis le dossier de ce journal nous emmène en Afrique du Sud.
Oui, parce que le cannabis se légalise de plus en plus. Ça se voit notamment dans les cursus universitaires. Vices et vertus de cette plante qui devient peu à peu légale. Nous sommes avec Valentin Hugues, notre correspondant à la fin de cette édition. La journée d'hier a donc permis une relative accalmie dans la province du Sud Kivu sur les fronts des combats qui opposent les miliciens du M23 et leurs alliés rwandais aux forces armées congolaises appuyées par les Wazalendo. La principale figure catholique du pays, le cardinal de Kinshasa, appelle à ne pas céder aux paroles belliqueuses et à dialoguer, y compris avec ceux que nous considérons comme nos ennemis. Ce sont les mots de Fridolin en Bongo. Les pays de la sous-région EAC et SADC espèrent bien parvenir dans les jours qui viennent à un cessez-le-feu durable. Aux yeux de la diplomatie rwandaise, il en va de la bonne volonté de Kinshasa pour que cette trêve soit respectée. Le ministre Olivier Ndungirehe.
Le M23 AFC avait déjà annoncé un cessez-le-feu unilatéral il y a quelques jours. Nous espérons cette fois-ci, puisque le sommet conjoint incluait le président Félix Tshisekedi qui était en ligne, va respecter ce cessez-le-feu afin d'ouvrir la voie à toute l'assistance humanitaire qui est nécessaire, mais aussi ouvrir la voie à un dialogue politique que nous appelons tous de nos voeux.
Le communiqué final demande l'implantation du CONOPS signé l'année dernière et qui prévoit la levée des mesures défensives rwandaises au niveau de la frontière. Aujourd'hui, est-ce que le Rwanda va lever ces mesures ?
En fait, c'est le Rwanda qui a proposé ce point particulier, la référence au CONOPS que nous avions adopté le 25 novembre, donc la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Et donc, nous espérons qu'avec la bonne foi et l'engagement de la RDC que nous appelons de nos voeux, que cela va faciliter la mise en application de tous nos engagements dans la région.
Le chef de la diplomatie rwandaise, propos recueillis par Lucie Mouillot. Bien avant la tenue de ce sommet conjoint, les autorités congolaises faisaient entendre déjà leurs griefs et leurs demandes vis-à-vis du Rwanda. Demandes de sanctions, notamment économiques, qui viseraient des responsables rwandais. Demandes qui ont trouvé un nouvel écho hier dans les rues de Bruxelles. Plusieurs centaines de personnes issues notamment de la diaspora congolaise ont bravé les 2 degrés de la capitale belge pour dénoncer aussi l'inaction de l'Union européenne. Hélène Aloison, reportage.
C'est dans un froid glacial que le cortège s'élance sous la pluie depuis la place Lumumba au cœur de la capitale belge, direction les institutions européennes.
Aujourd'hui, on est là pour dénoncer la complicité de l'Union européenne dans les massacres à l'est du Congo. Ce qu'on veut, c'est des sanctions. Ce qu'on veut, c'est le retrait des troupes dans notre territoire qui est occupé.
Geneviève, co-organisatrice et membre du collectif Mémoire Coloniale, demande que l'Europe se positionne face au Rwanda.
En premier lieu, ici, c'est le retrait de ces accords de coopération en matière militaire, en matière d'acheminement de ressources naturelles qui ont été signées ici ces dernières années avec le gouvernement rwandais.
Dans le cortège, on se réjouit de la demande de cesser le feu. Mais à l'instar d'Aminata, venue avec son fils, les manifestants voudraient aller encore plus loin.
Dans un premier temps, un cessez-le-feu, c'est bien. Mais je pense qu'il faut prendre le problème plus sérieusement. Il y a quand même des dommages collatéraux. C'est des vies qui ont été enlevées. Donc les sanctions, c'est déjà des excuses sincères. Et après, je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'exemples de comment est-ce qu'on peut réparer ces genres de choses.
Les manifestants attendent surtout des pays occidentaux qu'ils accroissent leur pression sur le Rwanda pour le faire céder, comme en 2012, lorsque le M23 s'était emparé de Goma. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Un mot encore pour vous dire que l'armée congolaise a annoncé qu'elle avait mis aux arrêts des dizaines de ses propres soldats, ainsi que des combattants des milices Wazalendo après que des habitants de plusieurs villages du sud Kivu avaient rapporté des cas de graves exactions. Les militaires arrêtés ont été conduits directement à la prison centrale de Bukavu.
RFI. 18 mois après le coup d'État et le début de la transition au Niger, le général Tiani commence à envisager la suite.
En convoquant donc pour cela des assises nationales et en les convoquant d'ailleurs à grande vitesse puisqu'elles commenceront dès samedi prochain. 674 délégués sélectionnés par les militaires au pouvoir qui seront chargés d'écrire une feuille de route pour la suite de cette transition. Quelle durée? Quelles ébauches pour de futures élections? François Mazet a scruté déjà l'organigramme.
C'est un chef traditionnel en la personne de Mamoudou Haruna Djingareï qui dirigera ses 5 journées d'assises nationales. Il sera accompagné d'un vice-président, le colonel-major Maman Soulé, actuel secrétaire général du ministère de la Défense, seul militaire de ce bureau, où l'on retrouve des personnalités et des membres de la société civile projointe. Par exemple, Ibrahim Hassan Mayaki, premier ministre sous le régime du président Barré à la fin des années 90, Abdoulaye Seyni du M62, Nour Arzika ou encore Ali Idrissa. Aucun représentant des 172 partis politiques ne siègera aux assises, les partis étant toujours suspendus par la junte. Plusieurs personnalités nommées se disent surprises d'avoir vu leur nom à la télévision nationale car elles n'auraient pas été consultées au préalable. Les participants aboutiront à un avant-projet de charte de transition et formuleront des recommandations. On en saura peut-être alors davantage sur la durée de cette transition. Le général Tiani avait évoqué 3 ans à sa prise de pouvoir, il en a déjà effectué la moitié. Les participants diront également s'il peut se présenter aux prochaines élections. Le rapport final doit lui être présenté au début du mois de mars.
François Mazet, grands absents de ces assises, les partis politiques nigériens, puisqu'ils sont toujours officiellement suspendus. Les organisations de la société civile malienne endeuillées et en colère après l'attaque terroriste survenue vendredi dans le nord du pays. Un convoi de véhicules civils escorté par les FAMA, l'armée malienne, et Wagner a été pris pour cible. L'armée évoque la mort de 25 civils, mais d'autres sources parlent de 32, peut-être 56 morts au total. On le sait, pourtant, disent les organisations sur place. Depuis 2021, cette zone autour du village de Kobe est un terrain de chasse des groupes terroristes. Il faudrait qu'une base permanente des FAMA soit installée sur place. C'est ce que nous dit ce matin ce membre influent de la société civile de Gao. Nous le gardons anonyme pour des raisons de sécurité.
Nous présentons nos condoléances à la nation malienne parce que c'est la situation est plus que triste. À savoir que Kobe n'est qu'à 35 km de Gao. Et si depuis plus de 4 ans, cette zone n'arrive pas à être maîtrisée, si les tueries continuent à se passer de la sorte avec une barbarie de notre âge, je crois que les autorités militaires sont interpellées à ce niveau pour prendre des dispositions de mesures draconiennes. Sinon, pourquoi ne pas installer une base militaire au niveau de Kobe? Kobe, c'est comme si tu me dis un quartier de la commune de Bendigo. Donc, il est temps que les plus hautes autorités militaires prennent leurs responsabilités en main pour, en tout cas, faire de Kobe une base militaire pour l'armée malienne. Les chefs de famille qui cherchent leur pain, on les arrête pour les tirer à bout portant. Inadmissible et inconcevable. Nous savons que les autorités sont en train de mettre tout en œuvre pour gérer, n'est-ce pas, cette situation d'insécurité. Mais pour le cas de Kobe, il doit y avoir des mesures exceptionnelles. Parce que Kobe ne peut pas continuer à être, n'est-ce pas, un point noir pour les populations de toutes les régions, sinon de tous les septentrions.
Un témoignage recueilli par la rédaction en mandinquant et en foule de Radio France Internationale. Lutter contre l'extrémisme violent, la tentation de la bascule, voilà ce que fait l'ONG Indigo. Nous sommes cette fois dans le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'elle faisait, en tout cas jusqu'à ce qu'un président de l'autre côté de l'océan ne décide qu'il fallait tout arrêter. Suspendre l'USAID, comme vient de le faire Donald Trump, ça veut dire très très concrètement geler complètement le travail de cette organisation. L'USAID en Côte d'Ivoire, ce sont 115 millions de dollars l'année dernière, 20 millions engagé par exemple dans le programme Résilience pour la paix qui devait se poursuivre jusqu'en 2026. En attendant, pour Indigo, c'est chômage technique pour tout le monde, dont le directeur exécutif Séverin Kwame.
Pour nous, ça questionne la continuité de l'action. Ça peut aussi éroder la confiance avec la population. Finalement, les gens diront, mais société civile, gouvernement ou État, c'est la même chose parce que il n'y a jamais de continuité. Dans un contexte où les incertitudes sociopolitiques et sécuritaires existent, il y a des activités que ce projet a menées qui ont permis justement d'apaiser la relation civilo-militaire, notamment par exemple le guichet unique mobile qui avait vocation justement à permettre à des populations de cette zone-là de travailler à l'immatriculation de leurs engins roulants et autres, de sorte justement à atténuer les risques de confrontation avec les forces de l'ordre. Il y a des communautés qui sont travaillées par des tensions internes pour lesquelles l'offre djihadiste ou l'offre des groupes extrémistes peut être perçue comme une alternative si justement aucune initiative ici n'est menée pour adresser cette demande sociale de justice, cette demande sociale d'équité.
Séverin Kwame, directeur exécutif de l'organisation Indigo. Un mot de la politique sénégalaise. Avec ce nouveau mouvement d'opposition qui a vu le jour hier, emmené par Khalifa Sall, c'est le Front pour la défense de la démocratie et de la République. 73 organisations pour le composer, dont le Parti Socialiste, l'APR de l'ancien président Macky Sall, ou encore Réoumi d'Idrissa Seck. Ses membres dénoncent entre autres une logique de règlement de compte des nouvelles autorités ainsi que leur populisme.
L'Afrique du Sud est en passe de former les meilleurs cannabiculteurs du continent et c'est le dossier de ce journal.
Pour explorer en effet les arcanes du business du cannabis, deux dates à retenir. D'abord, 2018, Pretoria décriminalise le cannabis. 2024, l'usage privé et médical deviennent autorisés. Mais qui dit légalisation progressive dit aussi nécessité de bâtir une filière légale, donc des professionnels qui plantent, qui cultivent, qui récoltent et qui transforment. Et tout ça, c'est une formation universitaire qui est en train de voir le jour. La rentrée de la Chiba Academy approche et les étudiants qui vont intégrer son cursus recevront un diplôme, tout ce qu'il y a de plus officiel. Valentin Hugues est donc retourné sur les bancs de la fac.
Avec Koketso Montlamé, on enfile notre blouse blanche. C'est un ancien élève de la Chiba Academy.
Je désinfecte vos chaussures.
Ah. Devenu professeur en charge du module plantation.
Voilà, bienvenue. Nous sommes ici dans la salle de culture. Je supervise la plantation et le développement du cannabis. Ce sont des plantes photosensibles. Il faut donc apprendre à régler la lumière en fonction des différentes phases de culture.
La culture du cannabis, c'est l'un des piliers de cette nouvelle formation reconnue par l'État qui débute dans quelques semaines avec 30 étudiants. Linda Siboto, cofondateur de la Chiba Academy.
Plus de 100 personnes ont demandé à s'inscrire. Donc en ce moment, on les appelle et on les sélectionne. Les jeunes qui seront acceptés vivront ce moment historique en devenant les premiers étudiants en Afrique à recevoir une formation en cannabis de niveau supérieur. Salut Chi, je configure juste l'appel.
Au téléphone, Trenton Birch, responsable de ce cursus d'un an.
Nous avons dû nous battre pendant 4 ans avec son lot de bureaucratie et souvent le manque de compréhension du cannabis. Et je ne vais pas vous mentir, c'était assez éprouvant. Mais nous y avons cru parce que, selon nous, plus on entraîne, plus on forme les étudiants, plus cette industrie va se professionnaliser.
Rentrée le mois prochain pour ces étudiants qui seront ensuite prêts à intégrer le marché florissant du cannabis. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Le revers de la médaille, d'une part, c'est le coût de cette formation universitaire. 75 000 rands, ça fait 4 000 euros. D'autre part, la légalisation progressive du produit est en train de faire disparaître des cultures de cannabis locales et artisanales qui, vaille que vaille, faisaient vivre des familles depuis plusieurs générations. Bonke Mfani Kiso, cultivateur dans le sud du pays.
J'ai grandi dans une famille de cultivateurs de cannabis. À l'époque, ce n'était pas légal. On ne laissait pas les gens cultiver du cannabis, mais ils ont choisi de le faire quand même, pour vivre, pour construire des maisons, pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école. Le problème, c'est que depuis la législation, on ne gagne plus d'argent, notamment à cause de la concurrence, parce qu'il y a une exclusion des cultivateurs ancestraux en faveur de ces nouvelles entreprises. On espère que les étudiants formés à l'industrie du cannabis sortiront des grandes villes et se déplaceront ici, pour travailler avec nous, cultivateurs des campagnes, aussi pour nous enseigner ce qu'ils ont appris à Johannesburg, par exemple. Il ne faut laisser personne de côté. Si nous travaillons tous ensemble, il y aura une très bonne industrie du cannabis en Afrique du Sud.
Bonke Mfani Kiso et un dossier réalisé par Valentin Hugues.
Et un journal présenté par Édouard Dupénoit. Merci Édouard.